France Inter.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Ah la vie, quel spectacle!
L'homme de science a toujours été un aventurier.
Le temps d'un bivouac!
Un plongeur qui nage épaule contre nageoire avec un grand requin blanc de plus de 5 mètres. Ces images ont fait le tour du monde. Elles ont été réalisées en 2006 au large des côtes mexicaines pour le film Océan. L'homme qui nage si sereinement à côté de cet immense requin, c'est le plongeur et océanographe François Sarano. Il a consacré sa vie aux océans. Ancien chef d'expédition sur la Calypso du commandant Cousteau, il n'a jamais cessé depuis d'aller à la rencontre du peuple des mers. Cachalots, baleines et autres animaux marins, parmi lesquels une quarantaine d'espèces de requins différentes. Certaines de ses rencontres avec les squales l'ont bouleversé et lui ont donné envie de réhabiliter ces animaux que l'imaginaire collectif accable à tort d'une terrifiante réputation de mangeur d'hommes. Dans un livre intitulé « Au nom des requins » paru aux éditions Actes Sud, François Sarano raconte ses plongées épiques, ses observations inattendues et les moments de grâce qui ont fait vaciller ses certitudes. Il partage aussi les récentes découvertes scientifiques sur ces requins que l'on connaît encore très mal et nous invite à réfléchir au sort que notre espèce réserve à ces grands poissons cartilagineux bien plus menacés que menaçants. Alors oubliez les dents de la mer et prenez une grande inspiration. Cet après-midi, François Sarano tente de nous réconcilier avec les requins et nous emmène à leur rencontre à travers les océans du monde. Claire Tesser a préparé cette émission qui est réalisée par Karen Dehay et Paul Laporte avec à la technique Thomas Langlin. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Il est beau, hein?
Plus gros que ce que tu avais en Afrique du Sud ?
Ouais. Oui.
Le tournage a commencé avec le maximum de sécurité. Toute l'équipe restait à proximité de la cage. Les plongeurs de sécurité avec leurs débordoirs, les caméramans, le photographe François Sarano. François était le plus expérimenté. Il avait plongé plus de 30 fois hors cage avec des requins blancs en Afrique du Sud.
C'est vraiment bien. C'est ce qu'on attend. L'eau n'est pas très très claire, mais il y a un vrai mystère. Vraiment bien.
Et cette image de paix, où l'on voit un grand requin blanc nager à côté d'un homme, est vraiment une image que l'on recherchait pour ce qu'elle est aujourd'hui dans le film. Une image d'harmonie.
Bonjour François Sarano.
Bonjour Daniel Fiebé.
La voix de Jacques Cluzot, co-réalisateur avec Jacques Perrin du film Océan, sorti en 2010 et dans lequel on vous voyait nager à côté de ce grand requin blanc sur une musique très paisible hein, qui est derrière nous. L'image a marqué les esprits. Quel souvenir vous gardez-vous de ce moment de plongée ?
Bonheur. Mais je tiens à ajouter, il y a toute une équipe dans l'eau. Il y a Didier Noirot, il y a David Reichert. On est nombreux. On en a profité tous. Mais ce qui ressort de tout ça, c'est que lorsque j'étais posé sur la nageoire, ou presque, à quelques centimètres de cette énorme femelle requin blanc, j'étais en paix. Serein. On est plein d'une sorte de plénitude qui vous prend au ventre, qui vous prend aux tripes et qui vous dit que vous appartenez au monde. Ces rencontres qui sont, je dis, authentiques, on peut pas tricher avec un animal comme ça. Elles vous font vivre très proche de ce qu'on pourrait entendre comme l'origine du monde. C'est formidable.
Alors on a mis une photo hein, de vous nageant avec ce requin blanc sur les pages Instagram et Facebook du temps d'un bivouac. Pour réaliser cette séquence quand même en 2006 au large du Mexique, il a fallu convaincre. Hein. Le co-réalisateur Jacques Perrin le dit, il a hésité 2 ans avant de mettre toute l'équipe, comme vous disiez, à l'eau et vous à côté de ce requin.
Oui, bien sûr, il y a tellement, tellement d'a priori. Et je pensais, les premiers jours, j'étais enthousiaste, je disais à Jacques, il faut y aller, on peut pas parler de l'océan sans parler du grand requin blanc. Ouais. Je lui avais montré les vidéos que nous avons tournées bien avant avec André Hartmann, Yves Lefebvre, et il voyait bien qu'on pouvait nager à côté de lui, mais c'était peu harmonieux. Et donc, il hésitait, et en particulier, Oli Barbet, le directeur de production, disait, bon, on va pas risquer un film, hein, on débutait le film, ouais. S'il y avait un accident. Mais non, il n'y avait pas d'accident. Et puis, Jacques, et les deux Jacques ont dit « Banco, on y va ». Et ça a été une semaine de bonheur absolu. On a fait des dizaines de rencontres avec des dizaines de requins différents. Ouais. Et puis un jour, la plus grosse des femelles est arrivée de loin. Je me rappelle, avec David, on avait été emporté très très loin par un courant, loin du bateau. Elle est arrivée, sûre d'elle, formidable, dans le bleu, face à moi. Et ça a été de la paix.
Mais pourquoi ce requin ne vous considère-t-il pas comme une proie ?
Mais les requins, d'abord, les requins ne mangent pas les hommes, ils ne considèrent pas les hommes comme des proies, et surtout, nous plongeurs, ils nous identifient tout de suite. Par conséquent, au pire, ils peuvent nous considérer comme des concurrents, parce qu'ils sont tellement méfiants, tellement timides, qu'il faut souvent les attirer, et on les attire pour pouvoir les filmer, surtout avec des plongeurs, avec du broyat de poisson. Et donc le requin se dit, mais... c'est à moi, ce poisson dont j'ai senti l'odeur. Mmh. Toi, va-t'en. Et parfois, il monte en faisant toutes sortes de manifestations, en rabaissant les nageoires, en se cambrant, en ouvrant la gueule pour essayer de vous intimider. Mais si vous, vous ne fuyez pas, si vous n'êtes pas intimidé, c'est lui qui est décontenancé. Par conséquent, il faut faire au contraire le calme, tout un trésor de patience et de discrétion pour pouvoir l'approcher, ce requin.
Alors, il n'y a pas si longtemps, les requins avaient tout de même une très mauvaise réputation, y compris chez les plongeurs les plus aguerris. Il y a cette scène assez terrible, hein, tournée sur le pont de la Calypso, le navire du commandant Cousteau, en 1954. Alors, 1954, c'est l'année de votre naissance, François Sarano, donc vous ne faisiez pas encore partie de l'équipage de la Calypso.
Un requin, puis deux, puis trois, des petits et des gros, des bleus et des gris. D'où sortent-ils ces requins ? Nous sommes loin de toute côte et il y a 5000 mètres d'eau sous notre quille. Bientôt ils seront 30 à rôder avec insolence. Pour nous, plongeurs, les requins, c'est l'ennemi mortel. Nous en avons souvent rencontré, mais nous n'en avons jamais tant vu à la fois. C'est le cas ou jamais de mettre en action notre cage anti-requin et d'aller voir en espérant que le câble est solide. La ronde infernale des requins autour de leur proie, si des hommes l'ont déjà vue, ils n'ont pas vécu pour le dire. Le cercle se resserre. Les squales viennent renifler leur proie. Ils semblent la caresser du museau, ils la frôlent 100 fois. Ils donnent au passage des coups de tête dans les barreaux. Que serait-ce sans la cage ? Tous les marins du monde détestent les requins. Les plongeurs, eux, sont déchaînés. Rien ne peut retenir une haine ancestrale. Chacun cherche une arme, n'importe quoi, pour cogner, crocher, hisser.
Extrait du film Le Monde du Silence, réalisé par Louis Malle et Jacques-Yves Cousteau, couronné par une palme d'or à Cannes en 1956. À l'époque, ce massacre gratuit de requins n'avait pas ému grand monde, François Sarano.
Non. Et mes prédécesseurs, j'aurais bien aimé être à bord de la Calypso à ce moment-là, c'était des vrais explorateurs, c'était des aventuriers, ils ouvraient un monde, c'était formidable quand même. Eh bien... ont dû vivre année après année les rencontres avec les requins pour comprendre à quel point ils s'étaient trompés. Et nous bénéficions, je bénéficie moi aujourd'hui de leur expérience. Mais il est vrai que ce film qui a eu la Palme d'Or n'a ému personne, le massacre n'a ému personne, parce que c'était la norme. Et attention, aujourd'hui c'est la même chose, hein. On massacre les requins à tour de bras, il y a des millions de requins qu'on massacre tous les jours. Ouais. Alors, soyons calmes et remettons ce film dans son contexte. On ne peut pas juger hors de son contexte.
Bien sûr, il faut quand même préciser que lors de cette débauche de haine déclenchée contre ces requins, en fait, les requins sont attirés par un jeune mammifère marin blessé, sanguinolent. Donc, c'est en voyant ce mammifère attaqué par les requins que les plongeurs s'attaquent aux requins. Mais on n'imagine pas dans un documentaire animalier aujourd'hui que les documentaristes attaquent des lionnes qui chassent l'antilope. Par exemple.
Bien entendu, mais encore une fois, le monde a changé. Revenons en 1950, où les hommes découvraient ce qu'il y avait sous la surface de l'océan. C'était la première fois. Et je rappelle qu'on tuait des milliers, des dizaines de milliers de cachalots, de baleines, de dauphins. Et là encore, aucune émotion. C'était normal. Il a fallu prendre conscience de tout ça. Ouais. Et Cousteau y a contribué. Ouais, nous bénéficions de ça.
Il y a contribué, mais il avait aussi eu, et vous le racontez dans votre ouvrage, je l'ai appris en vous lisant, il avait vécu une histoire un peu traumatisante avec des requins qu'il racontait à l'envi. Ça s'était passé en 1948 au large du Cap-Vert.
Oui, c'était avec Frédéric Dumas, et pour la première fois, il s'était éloigné du bateau un peu trop loin et avait été surpris par un grand requin océanique, le grand requin Longimane à longue nageoire. Ouais. Et ce requin, particulièrement inquisiteur et gros, les a encerclés petit à petit, les a éloignés du bateau, et la peur s'est emparée d'eux. Je pense pas qu'il y aurait eu d'incident, mais... Quand on a peur, alors on imagine le pire. Et il en a gardé un mauvais souvenir, et il nous le racontait souvent. Mais au fur et à mesure des histoires et des années, ouais. Ça enflait, bien entendu.
Il a un peu transformé l'histoire au fur et à mesure. Alors il y avait cette fameuse cage aux requins à bord de la Calypso, c'est-à-dire que les plongeurs plongeaient à l'intérieur de cette cage. Ça devenait un peu le clou du spectacle dans certains de ces documentaires. Elle était là pour l'artifice, elle était vraiment utile. Ça servait à quoi, cette cage aux requins?
Elle a dû servir parce que, à l'aube des explorations, effectivement, on se méfiait des requins. Et puis, il y en avait beaucoup, beaucoup. Mais lorsque nous-mêmes nous plongions, on la mettait plus pour le décorum. Ouais. C'était merveilleux. Ouais. Moi aussi, j'étais heureux quand on la mettait. Et j'ai vécu la dernière immersion de cette cage jaune aux îles Andaman, où il y avait pourtant beaucoup de requins, parce qu'à l'époque, la pêche industrielle n'avait pas encore ravagé les fonds de l'océan Indien. Et donc... Je mesurais à la fois le dérisoire et je regrettais aussi que nous n'utilisions plus ce magnifique objet. C'était magnifique, c'était un rêve, mes prédécesseurs. Pour moi, c'était une aventure merveilleuse. Ouais. Mais je suis heureux que le rapport que nous ayons aujourd'hui aux requins ait bien changé.
Ouais. Vous écrivez, à partir du moment où on a oublié cette cage aux requins, une page de l'histoire de notre relation avec ces animaux s'est tournée.
Oui, je le crois vraiment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui... Nombreux sont les plongeurs qui ont côtoyé des dizaines de requins, des dizaines d'espèces différentes, et on s'aperçoit à quel point chacune d'abord a sa singularité, et puis que à partir du moment où on est paisible, alors peut s'établir un rapport complètement différent de celui qu'on peut imaginer. Il est calme, et encore une fois, c'est au plongeur à être très 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 patient et calme pour pouvoir se laisser rapprocher par le requin.
Alors il y a un paradoxe que vous relevez, François Sarano, dans votre ouvrage Au nom des requins. Vous écrivez « Le requin est un animal familier de tous, mais que l'on connaît pas mieux que les dinosaures disparus depuis 65 millions d'années ».
Il est à la fois familier de tous, mais n'a jamais été vu par beaucoup de gens. Ouais. Et faites un micro-trottoir et vous demandez à un citadin, que pensez-vous des vaches? Oh, vous savez, bon, les vaches, j'en vois pas beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez des requins? Oh, c'est des mangeurs d'hommes, ils tuent. Tout le monde a une opinion sur les requins. Mm-hmm. Très peu de gens sont allés à leur rencontre.
C'est pourtant une lignée du vivant qui a survécu à plusieurs crises d'extinction. On va le voir plus tard dans cette émission. Et elle pourrait s'éteindre, cette lignée du vivant, avant même qu'on ait appris à connaître ces animaux.
Oui, parce que ils ont une reproduction particulièrement lente. Comme nous, ils ont une maturité sexuelle tardive et ils ont très peu de jeunes au cours de cette reproduction. Par conséquent, ils ne supportent pas une pression de prédation et notre exploitation dont le rythme est effréné. Et donc, si cette méthode de reproduction leur a permis de passer toutes ces extinctions, il est possible qu'aujourd'hui, notre exploitation les fasse disparaître.
Votre livre est un plaidoyer pour tous ces requins. Vous avez plongé avec une quarantaine d'espèces de squales différentes. Vous allez nous raconter les rencontres qui vous ont le plus marqué et nous dire ce qu'elles vous ont appris. Cet après-midi, on s'immerge dans le monde des requins avec le plongeur François Sarano dans Le Temps d'un bivouac sur France Inter.
Nous ne dirons plus jamais nous. Il nous vient de mourir là ce soir sur le coup. Nous ne serons plus jamais là pour personne. Nous ne serons plus ce truc bizarre qui déconne. Nous ne formerons jamais un grand ensemble. Nous ne serons jamais comme ceux qui au bout d'un moment se ressemblent. Tout est bleu quand le noir s'en va. Quand le noir s'en va, il en reste toujours un peu. De loin, ça ne se voit pas. C'est pas nous deux, c'est pas nous deux, c'est pas nous là. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux, ça ne se peut pas. Qu'on ait pu prendre feu cette nuit de cette phase.
C'était Tout est bleu, chanté par Mio Sec dans Le temps d'un bivouac.
Allez, on est parti. Ici, ce qu'on recommande en règle générale, c'est de maintenir une verticalité, une position verticale, afin que le requin nous voit aussi bien de face comme de côté, comme quelque chose de droit. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'eau, très peu d'animaux se déplacent à la verticale, donc ça va à la fois attirer le requin, mais aussi semer le doute, parce que face à lui va interférer. Eh bien, un animal qui n'a pas l'habitude de voir ou qui n'a pas l'habitude d'observer dans ce type de position.
Quelques conseils du plongeur Steven Surina, spécialiste des requins, avant d'aller à notre tour à leur rencontre. Vous êtes d'accord, François Sarano? Il y a une attitude particulière à adopter sous l'eau si on veut aller observer un requin?
Alors, l'ami Steven connaît vraiment, vraiment bien les requins. Mais moi, je préfère justement qu'ils viennent très près. Ouais. Par conséquent, je veux disparaître. Je me mets surtout à l'horizontale, être le minime, minime, pour qu'il soit là, œil contre œil, face à moi. C'est ouais. Ça que je cherche. Ouais.
Finalement, le plus grand danger, selon vous, c'est de les effaroucher, ces requins.
Si on veut les connaître, il faut bien vivre des moments avec eux. Connaître, c'est tisser des liens, vivre avec. Par conséquent, oui. Il faut ne pas les effrayer.
Alors, on dit les requins de façon un peu générique depuis le début de cette émission, mais on s'en rend compte en vous lisant. La famille des requins est très divers et il vous est arrivé vous-même d'être surpris en les observant. Vous racontez par exemple une plongée. Alors, en 1987, dans les eaux qui bordent l'Australie, vous partiez rechercher des requins tigres et c'est un tout autre requin que vous avez observé ce jour-là.
Eh oui, c'était à Rhine Island, c'est une île au-delà de la grande barrière de corail où les tortues viennent se reproduire et où les requins-tigres viennent attendre celles qui, épuisées, retournent à la mer. Et nous attendons les requins-tigres, on en a vu un énorme, il est passé, il est parti, et j'étais un peu déçu. Et tout d'un coup, je me dis, qu'est-ce qu'il y a quelque chose là, il y a quelque chose sur ce fond que je ne comprends pas. Et ce que je ne comprenais pas, c'était cet animal qui se déplaçait à quatre pattes. Ou plutôt à quatre nageoires. C'était un requin. On a la famille de requins, épaulettes. Eh bien, ces requins-là marchent sur le fond. Et ils marchent lambles, comme les chevaux. Deux nageoires à droite, deux nageoires à gauche. Et j'étais totalement surpris, car à l'époque, on ne savait pas que certains requins avaient le gène qui permet de marcher lambles. Au lieu de nager avec les nageoires.
Ça a été étudié depuis, mais vous l'avez observé avant qu'on ne comprenne.
Oui, on l'avait observé et filmé. Oui, voilà. Depuis, on a même mis en évidence le gène qui code cette démarche et qui, bien avant que les chevaux et nous, les quadrupèdes, utilisons cette marche, eh bien, eux l'avaient.
On estime à combien le nombre d'espèces de requins dans les océans aujourd'hui, François Sarano?
Ouh là là, là c'est difficile parce que les spécialistes sont pas d'accord. Et aujourd'hui où on découvre que chaque population est tellement parfois isolée qu'elle a valeur d'espèce, on oscille entre 400 et 536 pour les requins. Et puis les requins, c'est aussi des cousins très très proches des raies. Les raies, c'est jamais que des requins aplatis. Hein. Les requins, ils ont les fentes branchiales sur les côtés et les raies sous le ventre. Hein. Ouais. C'est la seule différence. Et donc parfois, on sait pas très bien. Donc on a 1100, 1200. Et puis un autre cousin extraordinaire, qui sont les chimères. Ces trois chimères, raies, requins, ont en commun un squelette cartilagineux qui les isole de tous les autres êtres vivants.
Ouais. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a plus de liens entre nous et un poisson rouge qu'entre les requins et le poisson rouge.
Exactement. Nous sommes des poissons. Nous sommes des descendants des poissons à nageoires épaisses. Mmh. Et les poissons rouges sont des poissons à nageoires à rayons, des actinoptérygiens. Mais nous avons le même squelette osseux qu'eux.
Ouais.
Alors que les requins, pas du tout, sont sur une autre branche, ouais. très loin.
Et alors justement,
cartilagineux.
Quand est-ce qu'ils sont apparus, ces premiers requins sur notre planète?
Alors, ils sont apparus il y a plus de 400 millions d'années, avant les poissons osseux. Ce ne sont pas des poissons, ouais. Vraiment. Et donc, ils sont partis sur leur voie évolutive, raies, requins et chimères.
Ouais.
Les chimères dont on parle peu, et qui sont extraordinaires elles aussi, parce que leur génome évolue extrêmement lentement. Ouais. Aujourd'hui, on peut encore rencontrer la chimère éléphant, qu'on appelle aussi requin fantôme, avec son nez en soc de charrue et ses énormes nageoires pectorales. Lorsqu'on le regarde de face, on dirait Dumbo l'éléphant. Et nous l'avons rencontré au cours de plongées extraordinaires en Nouvelle-Zélande, en 1987, et c'était la première fois au monde qu'on nageait avec eux. Et là, tout d'un coup, on se retrouve face à un animal qui est à la fois moderne, hein, c'est pas un fossile vivant, mais qui a très très peu changé depuis l'aube des temps.
Alors, il y a eu des périodes dans la longue histoire des requins où il y a eu, vous parlez même de requins de carnaval, tellement l'évolution a abouti à des formes de dentition excentriques.
À le moins qu'on puisse dire, c'était excentrique. Il y a un requin dont la dentition est résumée à une sorte de scie circulaire dans l'axe central de la mâchoire.
Ouais.
Et on peut dire que c'est unique dans l'histoire du vivant.
Ouais.
Mais les requins ont des dents partout. Vous savez que la peau du requin est recouverte de denticules, de vraies dents, hein, avec de l'émail, de la dentine, etc. Des toutes petites dents. Ils ont des dents partout, les requins.
Ouais, ouais. Et alors, le plus gros prédateur de tous les temps, eh bien, c'est le mégalodon. Lui, il a vécu assez récemment, hein, dans la longue histoire des requins.
Oui, il a vécu au Miocène, entre 25 et 5 millions d'années. C'était un animal énorme,
ouais,
qui visiblement se nourrissait de cétacés. On a même retrouvé récemment un squelette de cétacés avec des marques de dents de requin, hein,
ouais,
mégalodon. Et il a probablement disparu lorsqu'avec le temps des glaciations, les mers se sont refroidies, les cétacés se sont éloignés de sa zone de répartition et ayant moins à manger, ouais, il s'est vu supplanté par des requins plus habiles comme les grands requins blancs ou les macos.
Ouais. Alors, 16 mètres de long, 15 tonnes, une bouche dans laquelle un homme tiendrait debout. Vous auriez plongé avec celui-là, avec ce mégalodon, François Sarano?
Chiche.
Vous l'auriez fait.
Je ne sais pas, bien entendu.
Ouais.
Attendez, je ne suis pas fier à bras. C'est toujours encore une fois en équipe qu'on va ensemble dans l'eau. Hein. Et c'est une aventure qui est riche parce qu'elle est en équipe.
Ouais.
Mais ouais, ça me dit bien.
Je vous sens tenté. En tout cas, lors de certaines plongées, vous avez eu l'impression parfois de remonter le temps et d'entreapercevoir des requins dont l'aspect général n'a pas beaucoup changé depuis l'époque des dinosaures. Ça a été le cas par exemple lors d'une plongée en 2011 dans le détroit de Messine entre la péninsule italienne et la Sicile. Alors vous étiez parti à la rencontre d'un requin très particulier, le requin griset qui dans cette zone de la Méditerranée remonte des grandes profondeurs à la faveur de puissants courants ascendants. Et la rencontre a bien eu lieu.
Énorme. Rien ne semble l'effrayer. Ni nous, ni les lumières. Il est monstrueux. Un dos rond et lisse, pas de première nageoire dorsale comme chez les requins modernes. 6 fentes branchiales au lieu de 5. C'est une vraie bête préhistorique. Il a survécu dans la nuit des abysses aux cataclysmes qui ont balayé les ammonites et les dinosaures. Si près, à toucher, elle paraît encore plus énorme. Peut-être 5 mètres, 800 kilos. C'est une femelle sûre d'elle et indifférente à la joie qui me submerge. Si peu de plongeurs ont pu croiser son regard. Elle vient vraiment d'un autre monde.
Ça fait partie de vos plongées mémorables, François Sarano?
Ah oui, oui, c'était avec René et Stéphane Granzotto. Et nous étions donc dans ce détroit de Messil, où les courants sont d'une violence inouïe, donc on avait très très peu de temps à l'étale de pleine mer pour plonger avec ce requin qui vient effectivement des grandes profondeurs du bassin ionien, c'est-à-dire au sud, où il y a plusieurs milliers de mètres de profondeur. Et à la faveur des courants qui remontent dans ce détroit, les nuits de nouvelle lune, comme pour être aussi noires que dans les abysses, ces requins viennent chasser là, et ils sont accessibles à 40 mètres de profondeur. C'est pas gagné, hein, parce que le détroit est immense, il faut fouiller, et nous avons eu la chance d'en rencontrer, et nous avons aussi la chance de rencontrer un juvénile. Ouais. Ça, c'est extraordinaire, les gros, mais le juvénile, oui, ils ont des descendants, oui, ils sont là, dans le détroit. Ouais,
encore en Méditerranée. Vous avez l'impression d'un voyage dans le temps, vraiment, quand vous rencontrez ces animaux qui, ils ont évolué, mais leur aspect a très peu changé. Alors,
leur aspect a très peu changé. Et puis, vous savez, quand on plonge comme ça, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'aussi, on se fait une histoire.
Ouais.
C'est merveilleux parce que la mer nous réserve toujours des surprises extraordinaires. Il y a dans les abysses des animaux qui ont très peu évolué. On savait le nautile, on sait les encrines, et puis ces fameux requins. Donc j'aime à penser que là, caché, il y a encore du merveilleux. Et il y en a sûrement beaucoup.
Alors, il y en a du merveilleux. Et puis, le temps semble s'écouler différemment pour les requins. C'est par exemple un requin qui bat des records de longévité dans le règne animal.
Ben, c'est le requin du Groenland. Alors, je n'en ai jamais rencontré, mais mon ami René Euset, qui a plongé avec eux, m'en a parlé lent, solide, et puis placide. Et les scientifiques, en étudiant le cristallin de ces requins, se sont aperçus qu'ils pouvaient vivre plusieurs centaines d'années. Certains même, plus de 500 ans. Certains de ces requins qui vivent aujourd'hui ont rencontré Christophe Colomb.
Incroyable.
Incroyable.
Mais le revers de cette médaille, c'est que leur maturité sexuelle est aussi très tardive.
Très très tardive. 200 et quelques années. Heureusement que ces requins vivent en Arctique, dans des eaux froides, peu pêchées, parce que sinon il y a longtemps qu'il n'y en aurait plus. Si nous exploitions ces requins comme nous exploitons les autres, alors on n'aurait jamais su que ces requins vivaient aussi longtemps et que c'était des merveilles de la nature.
Quels sont les requins les plus gros que l'on peut croiser aujourd'hui?
Requin baleine, requin pèlerin. Moi, le premier requin qui m'a laissé stupéfait, c'est un requin pèlerin. J'étais en mer avec Fernand Voisin, le patron pêcheur avec lequel je faisais ma thèse. C'est lui qui m'a accueilli sur un bateau. Nous avions eu une tempête, on était en Irlande, à l'abri. Et tout d'un coup, on a vu de loin deux ailerons. Et moi, je regardais ces deux ailerons qui se suivaient. Je comprenais pas du tout. C'était pas deux requins, c'était le même requin. Nageoire dorsale, et c'était incroyable.
C'est-à-dire à 12 mètres qui les séparaient,
mais
presque.
Oui. C'était gigantesque. Là, je me suis dit, la mer recèle des choses incroyables. Il faut venir découvrir tout ça.
Et ces requins mangent des toutes petites proies. Hein,
ces requins sont planctonophages. Ouais. Et comme les baleines, ils ouvrent leur gueule et ils filtrent tout ce qui rentre. Ils engouffrent la mer et ne mangent que de tout petits crustacés, des minuscules.
Ouais. On continue notre exploration du monde des requins et de leurs très proches cousines, les raies. Vous allez nous raconter, François Sarano, une de vos plongées avec une raie manta avec laquelle vous avez eu une interaction étonnante qui donne à réfléchir sur l'intelligence des animaux.
But for all my trying, to hills. The impulse for rescuing the thing unto itself. And the heart moved, mover, pursued and pursuer. The light in the dark, the wild.
Stop Caring, c'était G Sunday.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
Nous sommes arrivés là sur un mont sous-marin qui s'élève de 250 mètres au-dessus du fond. Et c'est un endroit très favorable à la vie parce que le courant remonte au-dessus de ce mont sous-marin, enrichit les eaux de surface et il y a toute une vie qui s'y développe. Et là, les requins viennent rôder et Thomas et Fred, qui viennent ici régulièrement, ont vu des requins bleus et nous espérons les voir. Mais ils sont si rares et si méfiants que nous allons les attirer, comme le font les pêcheurs, avec des sardines, des bonnes grosses sardines, qui sont l'un des mes favoris des requins bleus.
Ce qui va se passer, c'est que rapidement, le gras va se déposer en surface et on va avoir toujours une zone d'eau calme. Ça va faire une traînée de plusieurs centaines de mètres. Plus on attend, plus on a de chance que le requin croise l'odeur de la proie.
Eh ben, commençons.
Allez.
Allez, c'est un extrait du documentaire Méditerranée, le royaume perdu des requins. Vous étiez, François Sarano, au large de Toulon avec les photographes naturalistes Fred Larrey et Thomas Roger pour cette plongée à la rencontre de requins bleus. Ces morceaux de poisson que vous jetez à l'eau, les requins sont capables de les sentir à quelle distance ?
Alors, il faut qu'ils soient dans le sens du courant. Ça, c'est très important. Mais les quantités peuvent être très, très, très faibles. Et ils ont la capacité, en essayant d'analyser une narine après l'autre, la concentration d'odeur, de remonter un courant qui peut aller sur plusieurs kilomètres, et donc de trouver la source de l'odeur.
C'est-à-dire qu'ils perçoivent les odeurs en relief.
Exactement. Mais comme nous percevons les sons en relief, grâce à la différence d'arrivée des sons sur chacune de nos oreilles. Ouais. Eux, c'est très très fin. Et s'ajoute à ça la capacité après à ressentir la moindre vibration. C'est-à-dire que si cette odeur est accompagnée par un battement anormal dans l'eau, tout de suite, le requin sait qu'il y a un poisson blessé ou quelque chose d'anormal vers lequel remonter pour trouver une proie potentielle.
C'est très difficile de se figurer le monde tel que les requins le perçoivent. Vous le dites, ils sont sensibles à des choses qui nous échappent totalement. Là où l'homme ne voit qu'une masse d'eau informe et homogène, lui voit des tas de choses, perçoit des tas de choses.
C'est pas difficile, c'est juste impossible. Nous ne pouvons pas nous imaginer la conscience du monde qu'a le requin. À la fois parce que ses sens ne sont pas les nôtres. Par exemple, lui perçoit l'activité électrique de nos cellules, de chaque cellule vivante. Nous, par exemple, il faut faire un électroencéphalogramme pour percevoir l'activité de nos neurones. Lui, le requin, il a des cellules sensorielles recoupées dans les ampoules de Lorenzini qui lui permettent ça. Il a la capacité de percevoir le magnétisme terrestre. Il a la capacité, comme on le disait il y a deux minutes, de percevoir la plus petite odeur et puis la moindre vibration. Par conséquent, ses sens l'informent sur le monde de façon complètement différente de nous. Et après ça, son cerveau analyse ces informations de façon différente. Nous n'avons aucune façon d'entrer dans sa tête et de savoir comment même il nous perçoit, nous.
Oui, et on peut se poser des questions quand on voit comment les interactions se passent parfois. Vous dites que tous les plongeurs ont eu des rencontres sous l'eau qui ont bouleversé leur certitude. Vous, par exemple, vous avez nagé avec une raie manta. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que les raies manta, c'est un peu des requins aplatis. Et avec cette raie manta, vous avez eu l'impression d'une vraie interaction. C'est une danse qu'elle vous a accordée.
Alors c'était à Sumatra, le petit matin, la calypso était ancrée, et moi avant les plongées, j'aimais bien les plongées.
Ouais.
Donc je pars tout seul, c'était l'eau, vraiment l'eau, et tout d'un coup je vois une raie manta. Et c'est très timide une manta, ça les est... très vite elles sont effrayées. Je me bloque, elle arrive vers moi, alors je de plus près, oui c'est pas possible, elle est là devant moi, et elle s'offre avec son immense ventre blanc. Alors, je cède. Je caresse le ventre blanc. Je me suis dit, au moins, j'aurais profité, elle va partir. Et oui, elle part, elle fait un looping et elle revient se positionner encore plus près. Et à nouveau une caresse. Et ça a duré une plongée entière. Et elle est revenue toujours plus près, toujours plus près. Quémander, demander des caresses. Et lorsque, à bout de j'avais plus d'air, vous savez, on avait des réserves à l'époque, j'avais, il fallait que je remonte. Elle est venue et elle m'a enveloppé dans ses grandes ailes immenses et m'a accompagné jusqu'en surface. Et là, je me suis dit, quel moment extraordinaire. Et puis je me suis posé des questions. On dit toujours que les poissons, les animaux à sang froid, ne sont que des mécaniques. Mais nous ne savons rien de leur conscience du monde. Et je me suis dit, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas heureuse de ces caresses? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas venue chercher? On ne doit pas s'interdire de penser qu'elle s'intéresse à autre chose que les éléments seuls nécessaires à sa survie. Elle s'intéresse peut-être, elle aussi, à l'altérité. Il faut vraiment se rendre compte que la conscience du monde est un continuum. C'est pas nous qui avons simplement la conscience du monde, c'est un continuum depuis l'aube. Et puis surtout un continuum foisonnant, avec leurs sens différents. Ils ont une conscience différente, mais nous ne savons pas très bien l'estimer. Nous n'avons même pas les mots pour pouvoir l'exprimer.
On est loin de tout savoir. De leur comportement, de leur façon de fonctionner. Des observations intéressantes ont été faites par le plongeur Laurent Balesta, accompagné de scientifiques spécialistes des requins. Ils ont plongé près de l'atoll de Fakarava, en Polynésie, au milieu d'une meute de plusieurs centaines de requins qui convergeaient sur un site à un moment bien précis de l'année pour manger des mérous qui se regroupent là pour se reproduire.
Vous savez, j'ai fait de la plongée partout dans le monde avec les requins, mais je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. C'était incroyable. En 25 ans de plongée, j'ai dû assister à une prédation seulement une ou deux fois.
Et ici, tu sais même pas combien.
J'ai arrêté de compter.
Au QG, Yanis décrypte nos premières images. Une hypothèse prend forme. L'idée de duo de requins. Des binômes qui chasseraient ensemble.
Ici, à Fakarava, il y a tellement de requins et tellement de prédations que pour la première fois, on peut avoir une idée de leur tactique de chasse et surtout de comment ils mettent ces dernières en place au sein de leur système social. La question est, pourquoi forment-ils des groupes sociaux? En restant groupés, si un requin envoie un autre attaquer une proie, il peut en profiter. C'est simple, mais ça permet de créer des liens sociaux.
Extrait du documentaire 700 requins dans la nuit. Le scientifique que l'on entendait est un spécialiste des requins, Yanis Papastamatiou. Et puis il y avait le plongeur Laurent Balesta. Impressionnant ces plongées qu'ils ont effectuées au milieu de centaines de requins, François Sarano.
Extraordinaire les explorations de Laurent Balesta. C'est un grand explorateur. Il y a dans le monde des tas d'endroits où on peut voir beaucoup de requins, mais c'est vrai que là il y en avait particulièrement. J'avais plongé dans des endroits avec la Calypso autrefois, où les rassemblements étaient moindres, mais où on s'était retrouvés dans des situations semblables. Il y a toujours une question qu'on se pose. Quel est l'effet des lumières et des plongeurs sur l'activité des requins? En deux mots, nous les plongeurs et nos lumières, nous dérangeons beaucoup de poissons diurnes qui sont endormis dans les anfractuosités. Nous leur faisons peur. Et cette peur qui, tout d'un coup, les fait sortir de leur cachette, suscite la curiosité des requins parce que les vibrations, tout de suite, attirent les requins. C'est un petit peu comme, est-ce que la lumière du frigo est allumée lorsque la porte est fermée? Nous ne saurons jamais ça.
Alors, Laurent Balesta dit qu'il pense tout de même avoir identifié des duos de requins qui se forment pour chasser. Alors, ça laisse quand même entendre qu'il y a une capacité à se reconnaître, à identifier des partenaires de chasse?
Il y a deux choses. D'abord, le scientifique qui travaille aussi avec Laurent, c'est Laurent Mourier, c'est
Johan
Mourier. Et le duo peut-être dont il parle, c'est une association de requins corail, ou qu'on appelle aussi à pointe blanche du lagon, et de requins gris. Et là, c'est la tactique de chasse du requin corail qui est de fouiller dans les anfractuosités, de débusquer les petits poissons, profite au requin gris qui, lui, est un requin un petit peu plus pélagique. Et donc, ce duo permet au requin gris de mieux manger. Les associations, je dirais, Yanis employait un mot de société. Je suis pas sûr que les requins soient vraiment des animaux sociaux. En revanche, comme Johan l'a montré, il y a effectivement des affinités dans certains groupes, des affinités entre individus particuliers qui n'ont pas pour autant de liens génétiques, qui n'ont pas pour autant de liens de parenté. Ce qui veut dire, oui, qu'il y a éventuellement une aube de relations sociales, mais beaucoup moins quand même que chez les cétacés, ça n'a rien à voir.
Et oui, que ces grands mammifères que vous avez aussi beaucoup observés, hein, ces grands mammifères marins, notamment les cachalots, vous avez mis en évidence, ou vous avez observé des nourrices qui s'occupent des jeunes pendant que les autres vont chasser, vous avez vu comment le jeu leur permettait de s'adapter, tout ça vous l'avez observé chez des mammifères, on n'en est pas là avec les requins.
Non, on n'en est pas là. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il faut savoir que lorsque la mère requin, soit a pondu ses œufs, évidemment, elle les abandonne, soit elle accouche, un peu comme nous, il y a des requins qui ont des simili-placenta. Hein. Lorsqu'elle accouche de ses petits, c'est terminé, elle ne se croit plus d'eux. Et si jamais elle les rencontre, elle risque de les croquer. Par conséquent, il n'y a pas de transmission intergénérationnelle. Et ça, c'est un facteur prépondérant sur l'évolution des animaux. Le deuxième facteur, c'est effectivement la capacité à explorer, non pas directement pour des raisons de survie, je vais chercher à manger ou à me cacher, ou c'est comme ça, mais pour rien. Et cette exploration ludique, elle permet d'inventer des choses, de découvrir des choses et éventuellement de transmettre des innovations. Alors que l'exploration purement de survie, elle est beaucoup plus restreinte et permet moins d'évoluer. Donc moins d'innovations et surtout moins de relations avec les uns et les autres.
Oui, mais alors le requin, il ne fait pas que des actions pour survivre. Vous le dites, finalement, des fois entre deux prises de proie, il peut se passer plusieurs jours, parce qu'une fois qu'il a mangé, il est repu. Donc, des fois, il passe des journées entières à faire autre chose que assurer sa survie. Que fait le requin de son temps libre?
Et je ne sais pas, mais il dort beaucoup. Hein. Souvent, on voit les requins qui sont posés sur le fond. Tous les requins ne se posent vraisemblablement pas, mais enfin, ils dorment, ils se reposent. Et c'est vrai, il faut souligner que les requins mangent très, très peu, et lorsqu'ils ont beaucoup mangé, ils prennent beaucoup de temps pour digérer. Juste une idée, un requin ordinaire comme ces requins gris décrits par Laurent Balesta, 200 grammes par jour leur suffisent. Un grand requin blanc d'une tonne et demie comme Lady Mystery, 3,5 kg leur suffit. C'est très, 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 très peu. Et malheureusement, nous n'avons pas suffisamment de temps avec eux pour savoir ce qu'ils font pendant leur temps libre. Ah, mystère.
Ouais. Lady Mystery, justement, c'est ce grand requin blanc, cette femelle requin blanc avec laquelle vous avez nagé épaule contre nageoire. Mais les rencontres entre requins et humains ne sont pas toujours aussi parfaites, malheureusement. Elles sont parfois tragiques. Nous allons nous intéresser aux accidents dont ont été victimes des surfeurs sur les côtes réunionnaises. Vous allez nous dire, dans la suite de ce temps d'un bivouac, François Sarano, le regard que vous portez sur ces accidents impliquant des requins bulldogs.
On dit qu'il est fait faire ton pas, tu es là. Quand je m'endors, mais je veux te revoir encore. Où est-il? L'autre bout du monde, l'autre bout du monde, l'autre bout du monde, l'autre bout du
monde. C'était Émilie Loiseau, L'autre bout du monde, dans le temps d'un bivouac. Et notre programmation musicale est signée Thierry Dupin.
On a 50 km de côte, on en est à 4 morts en un an et demi. Il faudrait peut-être bouger un peu. Hein.
C'est incompréhensible, ça fait 2 en 2 semaines. Où il y a trop de requins, où il y a des problèmes de canalisation, je sais pas. Plein de gens disent plein de choses.
Merci les pouvoirs publics. Merci messieurs les ingénieurs, messieurs les écolos, messieurs les plongeurs et compagnie.
Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied dans cette là-dedans. Moi, je vis sur cette terre.
Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité.
C'est quoi ça? Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème.
Je vis ici depuis 60 ans.
Et alors?
Mais c'est mon pays, la raison.
C'est ici, vous savez ce qui se passe là?
C'est mon pays, monsieur.
C'est votre pays, vous n'y connaissez rien.
En 30 ans, on n'a jamais eu une attaque sur la côte ouest. On n'a jamais eu une attaque en 30 ans. On en a 5 attaques en 4 mois et on vient nous dire que c'est notre problème à nous.
Nous étions au début de la série d'attaques de requins commencée en 2011 sur les côtes de l'île de la Réunion. On entendait la colère des surfeurs qui prenaient à partie Huguette Bello, à l'époque député maire de Saint-Paul. François Sarano, à cette période, en novembre 2013, alors que 5 accidents mortels avaient eu lieu en 3 ans, vous vous êtes rendu à la Réunion. Vous avez vu les esprits s'échauffer dans la population.
Oui, et c'est normal parce que un drame, c'est épouvantable lorsque quelqu'un perd un enfant. Bon, c'est épouvantable. Mais on va corriger deux choses. D'abord, des accidents à La Réunion, c'est de tout temps qu'il y en a eu. Et lorsque j'étais sur la Calypso et que mon ami Alain Diaz, qui était chirurgien à La Réunion, m'envoyait chaque année, il y a encore eu un accident. Et je rappellerai à un certain nombre de gens qui sont là depuis moins longtemps que beaucoup de gens là-bas, qu'il y a toujours eu des accidents. Je me souviens qu'en 2006, il y a eu des accidents mortels, de coup sur coup, et que les surfeurs, les moniteurs de surf ont dit, allez, arrêtons, soyons raisonnables, surfons responsables, n'allons pas, lorsque les circonstances ne sont pas favorables, surfer. Mais il se trouve aujourd'hui qu'un certain nombre de surfeurs sont non plus des marins, mais des consommateurs de loisirs nautiques et qu'ils ne veulent pas apprendre les règles de l'écosystème. Par conséquent, ils se mettent dans des situations extrêmement favorables à une mauvaise rencontre. Et lorsqu'il y a un requin particulièrement explorateur, une singularité qui est là un peu affamé, il peut tenter une morsure. Alors même que les autres requins de la même espèce ne mordront pas, lui va mordre. Donc il faut éviter de se mettre dans ces situations. Et aujourd'hui, il y a aussi une deuxième catégorie de gens qui sont des surfeurs de très haut niveau, des sportifs. Et là encore, ils considèrent l'océan comme un générateur de vagues. Et ils ne se soucient plus de savoir que ces vagues font partie d'un écosystème global. Donc, les accidents se multiplient. Et je regrette effectivement qu'il y ait eu des décès. Mais il faut apprendre l'écosystème. C'est comme si on n'apprenait pas la ville. Ouais. On serait écrasé tout de suite.
Vous trouvez absurde qu'il y ait eu à ce moment-là des représailles, des pêches punitives contre des requins en plus pris au hasard dans l'océan. Alors, même des pêches préventives.
Voilà. Alors, la première chose, pêche punitive. Est-ce que vous pensez qu'en tuant un requin, on va dissuader les autres, qui vont avoir peur? Alors, soyons sérieux. Ouais. Mais c'est bien des pêches punitives. La deuxième chose, on mène la politique de si ce n'est toi, c'est donc ton frère. C'est-à-dire, tout requin qui passe est un requin qui doit être tué au prétexte qu'il pourrait causer un accident. Et enfin, ces pêches qui sont sans limite, ni de nombre, ni de temps, sont absurdes parce que dans tous les cas de figure, il faudra bien à un moment donné que les surfeurs, eh bien, apprennent l'écosystème et puis vivent avec ça. On va pas vider l'océan de ces requins. Ouais. Par conséquent, pourquoi ne pas apprendre tout de suite?
Et je précise, vous le dites d'ailleurs aussi dans votre livre, qu'il y a des surfeurs qui ont été mutilés par des requins, qui se sont élevés contre les massacres de requins faits en représailles après des accidents.
Alors, ils sont nombreux, ils ont même monté une association qui s'appelle Fin for a Fin, et qui dit en deux mots, si les requins prennent ma vie, je ne veux pas que vous preniez leur vie, parce qu'ils sont chez eux et que l'océan est riche de tous ces animaux. Nous avons des amis plongeurs, très très rares les accidents avec les plongeurs, et en particulier une amie qui s'appelle Céline, qui a subi une attaque d'un requin-tigre en plongée exceptionnelle, et qui milite aujourd'hui pour préserver les requins et pour dire à quel point ils sont importants dans l'écosystème marin, et que c'est nous qui sommes les intrus chez eux.
Vous, ça ne vous fait pas réfléchir, vous, François Sarano, qui avez plongé avec tous ces requins, de savoir que, même si c'est très rare, ça peut arriver, un accident avec un requin?
Mais chaque jour, un accident peut arriver. Et on vit. Attendez, 100 accidents par an, des centaines de milliers de personnes sur le territoire, de dizaines d'espèces de requins, et 10 qui conduisent à un décès. Il n'y a pas d'activité de nature qui soit moins dangereuse. Parlons pas du ski, parlons pas de la marche, parlons pas de l'alpinisme. Tout est plus dangereux. On va bien grimper, on va bien faire du vélo. Enfin bon.
Alors vous rappelez que ces animaux restent bien plus menacés que menaçants. Aujourd'hui, dans quel état sont les populations de requins à travers les océans du monde ?
36% en danger critique d'extinction. Et je ne parle pas de certaines populations comme en Méditerranée, où quasiment elles le sont toutes. On parlait des requins bleus tout à l'heure, des requins parmi les plus prolifiques, et aujourd'hui ils sont en danger critique d'extinction en Méditerranée, comme le blanc, comme le marteau qui a quasiment disparu. Leur fragilité vient, encore une fois, de ce que leur reproduction est extrêmement lente. Et la pression de prédation et le rythme que nous leur imposons ne leur permet plus d'atteindre même l'âge de maturité sexuelle et de se reproduire.
Avec des choses qui font vraiment mal au cœur. Vous dites 38 millions chaque année de requins massacrés rien que pour leur aileron. C'est-à-dire qu'on coupe l'aileron, on jette le reste du requin à la mer. Tout ça pour faire des soupes, ça donne un peu une consistance, ça n'a même pas de goût, ça donne une consistance à des soupes. Ça paraît bien dérisoire.
Ça paraît inadmissible. Ça paraît inadmissible. Massacrer des gens, des requins, mutiler des requins, les rejeter vivants sans leur nageoire à l'eau, simplement pour la texturer la soupe, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Mais c'est aussi pour les cosmétiques, mais c'est aussi pour des tas de choses absurdes, absurdes. Il faut que nous ayons de la considération pour chaque créature vivante et qu'on se pose véritablement la question, est-ce qu'il est bon de tuer cet animal? C'est si facile de tuer, c'est si facile.
Ces animaux qui ont traversé les âges et survécu à plusieurs crises d'extinction sont en train de s'effacer.
Oui, ça fait partie des rares animaux qui véritablement sont en danger. Les poissons le sont beaucoup, beaucoup moins, mais eux, oui. Il faut aujourd'hui un sursaut. D'ailleurs, nous avons lancé, avec d'autres, bien d'autres associations, une pétition, 1 200 000 signatures contre le finning, c'est-à-dire contre l'aileronnage sur les bateaux européens. Et cette pétition qui a recueilli toutes ces signatures avec l'association Longitude 181, on va la porter devant le Parlement européen pour que on décide d'arrêter ce massacre absurde.
On peut encore la signer, cette pétition ?
Ah, je crois que c'est fini. C'était fin janvier, mais nous avons atteint le compteur. Il va falloir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie encore. C'est pas la première fois.
On mettra un lien vers votre association Longitude 181 sur le site de France Inter. Franceinter.fr. Merci François Sarano. Au nom des requins, tel est le titre de votre livre paru aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous François Sarano.
Merci Daniel Fievé.
Le temps d'un bivouac replie sa tente pour aujourd'hui. Pour réécouter cette émission et les précédents épisodes, il y a bien sûr les podcasts sur l'appli Radio France ou sur Franceinter.fr. Et pour nous laisser un message, vous connaissez le chemin, la page Facebook ou la page Instagram du temps d'un bivouac. À demain pour de nouvelles aventures.